Laura est partie. Non, non, elle est sortie de la pièce. Ah. Création plus dégénération. Dégénération entre Adam et Noir. Et à la fin de la paracha de Bereshit, la Torah nous a dit que Vayara Hashem ki rabba ra'at Adam ba'aretz, Hashem a vu que le mal sur terre, hein, était beaucoup trop important. Et que les pensées de l'homme n'étaient que tournées vers le mal, en fait. Donc, Vayinachem Hashem ki asa et Adam, Vaaretz, Vayitatsev el libo. Non, j'ai dit à tout à l'heure, peu importe. Mais non, je veux dire, quasiment de l'échec de son programme, de son projet, et il dit à Noah, enfin, il ne lui dit rien directement, mais il dit, Emche et Adam, Asher Barati, Me'al Pnei Adama. Je vais effacer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre. Et cet effacement, ce sera un effacement qui touchera les hommes, les animaux, jusqu'aux insectes, aux oiseaux. Parce que on traduit, je me suis ravisé. Nihamti, c'est la chaîne Nechama. Nechama, nous on utilise ça comme pour dire consolation, mais c'est regretter en fait. Qui a sitim de les avoir faits, ces hommes et tout ce que j'ai créé là. Et la paracha, elle terminait par le fameux verset le noir. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Sans aucune justification, on ne dit pas ici du tout pourquoi Noach a trouvé grâce. Là, on nous dit, voilà, il a trouvé grâce. Alors, le trouver grâce, ça se dit, comme vous avez vu, chen. Et Noach et chen, c'est presque un palindrome. Si on le lit, donc, c'est un palindrome. Mais ce n'est pas le même mot. Mais à partir du moment où on dit qu'il a trouvé grâce, ça veut dire que quand vous lisez Noach à l'envers, chet nun, ça donne chen. Chen, c'est une forme de racine de chinam. Une des drachotes qu'il y a sur le rapport avec les goïms, une des drachotes, c'est l'otiten la'em chen. On n'a pas le droit de leur donner chen. Une des lectures, c'est qu'on ne peut pas leur donner donc une terre, une partie de la terre, pas de. On n'a pas le droit de donner ou de vendre un non-juif une partie de la terre d'Israël. Mais c'est aussi, ça veut aussi dire qu'on n'a pas le droit de dire que c'est beau, etc. On craigne, et c'est, n'a pas le droit de leur donner maintenant trinam, cadeau gratuit. Donc là, on voit très bien qu'on a pris chren pour une source, quoi, si vous voulez, de chinam, gratuit. Donc on pourrait dire qu'il y a déjà dans cette phrase là, il y a déjà quelque chose de l'ordre de, on ne sait pas vraiment pourquoi Noach a été sauvé. Et la question est donc, puisqu'on ne sait pas pourquoi il a été sauvé, s'il a été sauvé pour aucune bonne raison, quoi, si on peut parler comme ça, alors peut-être qu'il y a d'autres gens qui étaient aussi bons que lui, qui eux n'ont pas été sauvés. Si le sauvetage de Noach est un sauvetage complètement arbitraire, puisque ce serait basé sur rien de précis, en tout cas rien que la Torah nous donne, eh bien, c'est tout. Il pourrait y en avoir d'autres, on va voir ça. Et on dit que Vaïtatsev, Rashi dit, Vaïtatsev Adam el libo shel makom. C'est-à-dire, Allah ve marchavto shel makom le ha'atsivo. Etsev, c'est la tristesse, la tristesse. Donc, Hachem a. Il est venu à la pensée divine, si on veut parler comme ça, d'attrister l'homme, c'est-à-dire de le détruire complètement. Une autre lecture dit Rashi, Vinachem nefcha marchavto shel makom midat rachamim le midat adin. C'est-à-dire Allah be marchava lefanav mal asot be adam she'asa ba'aretz. Vechen kol lashon nichum shebimikra, le mot nichum dans la Torah, c'est lashon nimlach. Ça veut dire changer la vie. C'est-à-dire, c'est interroger, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mal asot. Il donne, Rachid donne des exemples, effectivement. Toujours une change, penser différemment au sujet de quelque chose. Donc Hachem a pensé autrement que ce qu'il avait pensé jusque-là au sujet de l'homme. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le verset dit que c'est Ra'at Adam. C'est l'homme qui est mauvais, mais ça entraîne la destruction du monde entier. Ce n'est pas l'humanité qui est détruite seulement, mais c'est l'humanité, c'est l'homme et c'est toute la création qui est détruite, et y compris la terre. Parce que comme vous savez, dans le déluge, il va y avoir 30 cm de terre à la surface du globe qui vont disparaître. C'est-à-dire, si vous voulez, aussi profond que le socle de la charrue ou la bêche vont. Rachid dit, tout ce que j'ai écrit à ce sujet-là, je l'ai écrit Parce que il faut donner une réponse à un hérétique ou aux hérétiques. Parce qu'il y a un hérétique qui a posé la question à Rabbi Yehoshua ben Kofra. A priori, Rabbi Yehoshua ben Kofra, c'est le fils de Rabbi Akiva. Il lui a dit, vous dites donc que votre Dieu, que Akadosh Baruch Hu, il connaît le futur. Il a répondu oui. Il a dit, mais c'est écrit dans la Torah qu'il a regretté. Donc, si ça veut dire qu'il ne savait pas ce qui allait advenir. Rabbi Yehoshua ben Kofra lui avait répondu, lui a demandé, est-ce que tu as eu un fils? Il a dit oui. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es réjoui. Il a dit, je me suis réjoui. J'ai réjoui tout le monde. Et Rabbi Yehoshua lui a répondu, lui a dit, mais tu ne savais pas que finalement il allait mourir? Il a dit, au moment de la réjouissance, il faut se réjouir. Au moment de la naissance, on se réjouit. Et quand il faudra porter le deuil, on portera le deuil. Alors Rabbi Yehoshua lui a répondu, c'est comme ça aussi. Il sait très bien que finalement, les hommes vont fauter et qui devra les détruire. Ce n'était pas une raison pour ne pas les créer. Pourquoi? Parce que il y a des tzadikim qui allaient naître de cette humanité qu'il a créée. Alors, évidemment que dans ce que dit Rashi ici, c'est un peu problématique parce que il dit il y a des tzadikim qui sont nés. Alors on sait qu'il y a eu des tzadikim dans les 10 générations entre Adam et Noah. Mais ils sont tous morts finalement. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les tzadikim? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des tzadikim qui ont fait des choses durant leur vie, même si finalement ils sont morts comme tout le monde, et ils ont construit quelque chose. C'est juste, il reste une question, c'est que le déluge qui va venir ici, il va tout détruire. C'est-à-dire, il ne restera rien de cet ancien monde. Donc, rien de ce que ces fameux tzadikim ont fait. Donc, ça, il reste un peu une question. Qu'est-ce que ça veut dire, Bishvilat Sadikim? Alors, bien entendu, le grand problème qu'on a, enfin, c'est justement toute cette. C'est quoi exactement le. Qu'est-ce qui se passe exactement avec l'histoire de Noé? Donc, on va juste lire aussi le premier verset de Parchat Noé. Elle est Toldot Noir. Voici les engendrements, voici les générations, voici l'histoire de Noir. Noir, Ish Tzadik. Noir, c'est un homme tzadik, un homme juste. Tamim, intègre. Aya, Tzadik, Tamim. Aya, Abedorotav. Dans ces générations. Qu'est-ce que c'est que ce pluriel là? Et Elohim, italer noir. Noir, il marchait avec Elohim. Il marchait avec Elohim. Rashi dit sur Italer Noah, il marchait avec Elohim. Dit, Rashi dit, chez Avram, ce n'est pas marqué comme ça. Chez Avram, c'est marqué, Asher Italarti Lefanav. Avram, il nous lui marchait devant Hachem. Noah, Hayatzarir Saad, Tamcho. Noach, il avait besoin d'aide. il avait besoin d'être soutenu. Avraham, il a mis Trazek, mais Alech, Betsitko, Me'elav. Avraham était capable de marcher tout seul. C'est-à-dire que Avraham Avinu, il était capable d'avancer. Ça veut dire que avec ce qu'Hachem lui a donné, il est capable d'inventer un futur. Alors, il est le Panav, c'est toujours devant Hachem, ça, il faut vérifier qu'il n'est pas en train de dévier, mais il invente. Noir, il n'ose pas. Il n'ose pas. Noir, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est quelqu'un qui va s'écraser, peut-être même pas complètement, mais a priori, il va s'écraser devant un chien.
On doit tous s'écraser.
Oui, mais on a aussi des choses à faire. Il faut s'écraser devant un chien, mais il y a des moments où on doit prendre des initiatives. Et justement, Noir, lui, il n'en prend pas. En pas d'initiative. Pardon? Oui, mais il ne peut pas s'appuyer sur Noir pour inventer, puisque Noir n'a jamais rien inventé. Mais il n'a pas tracé un chemin nouveau. Il a tracé le chemin d'Hachem, mais ça, Avraham Avinu, Hachem lui dit aussi ce qu'il doit faire. Simplement, il est capable, il avance, il invente et il vérifie qu'il n'est pas en train de se fourvoyer.
Est-ce qu'on peut dire qu'il arrive au chemin, au but qu'Hachem lui a donné, mais il en invente le chemin?
Non, mais peut-être même que. En fait, le but, Hachem ne lui a pas donné le but, il ne lui a pas dit, vous voyez, quand il doit, part, et tu vas à l'endroit que je te dirai, pour Yitzhak aussi, pour Akeda, Moria, et je te dirai, tu verras bien. Bon, il ne sait pas, Abraham, quand on en reparlera, il ne sait pas où il va. Il sait simplement qu'il va là où Hachem, et je vais déjà comprendre ce que. Quand j'arriverai là-bas, je comprendrai que je suis arrivé. Non, mais il sait pas. Hachem lui a dit seulement qu'il est sauvé, c'est tout. Mais après, Hachem lui dit, tu vas construire une arche, il faut que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire, moi, je vais te sauver, toi. Ça veut dire que on a vu déjà que Akadosh Baroukh a créé des mondes. Puis il les a détruits. Créer des mondes, détruits, créer des mondes, détruits. Ça veut dire que, bon, il y a des mondes qu'il a. Bon, c'est pas clair exactement ce que ça voulait dire, parce que Hachem, il n'a pas besoin de coup d'essai pour savoir. Ça faisait partie de. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une évolution, probablement. C'est pour nous que. On nous enseigne qu'il a créé des mondes et il les a détruits. Ça veut dire, il faut considérer que le monde ici est l'aboutissement d'une recherche. Enfin de, voilà, c'est, pour nous, dans notre tête, ça doit fonctionner comme un aboutissement d'une démarche. Et ce monde-ci, ben, il a mieux réussi que les autres, donc il a bien commencé. Il a eu 10 générations, mais pendant ces 10 générations, il y a eu dégradation et on est arrivé à un but où il faut détruire le monde. Mais Hachem décide qu'il ne va pas le détruire complètement, il va le quasi détruire, puisque maintenant il va sauver une famille et on va avoir un nouveau premier homme. En fait. Et le premier homme maintenant dans cette version-là, c'est une famille. Le premier homme, c'était Adam. C'était quelque chose, on pourrait dire un premier homme, hein, bien que bon, c'était compliqué, il était Zahar, Nekeva, etc. Très compliqué. Mais Mais ici, maintenant, c'est une famille, c'est-à-dire toute cette famille qui est sauvée. C'est donc Noir, sa femme et ses trois fils et leurs épouses. Donc, c'est déjà, on commence avec une famille. Et on va voir dans la suite que les fils de Noah, après le déluge, donc, ils vont se partager le monde. Ils partagent le monde en trois. Et Ham et Knan vont faire en sorte que Noah ne puisse pas avoir d'autres enfants. Il ne voulait pas partager avec un quatrième fils. Si Noah avait eu d'autres enfants, il aurait fallu partager avec eux aussi. Donc, réviser le partage du monde. Et donc, ils ont décidé que non, on ne va pas laisser Noah avoir un autre enfant. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour que Noah ne puisse pas avoir d'autres enfants.
Est-ce qu'il y avait une raison
de l'homme
ou c'est la
part
du
gars? Est-ce qu'il y avait une raison de l'homme? C'est présenté comme négatif, il ne voulait pas partager.
Donc le monde redémarre avec...
Le monde va redémarrer avec une famille. Donc on est des descendants d'Adam, mais en fait, tout recommence, si vous voulez. Enfin bon, Noir lui-même, il est un antédiluvien. Donc on a cette histoire. Donc ensuite il y a justement ce Tzadik Tamim Hayah Bedorotav dans ces générations. Rachid dit, puisqu'on a mentionné son nom, on a fait son éloge. Comme quand on mentionne le nom de quelqu'un, d'un mort, on dit Mezecher Tzadik Livracha. Donc voilà pourquoi on dit de lui tout de suite qu'il est Ish Tzadik Tamim Hayah Bedorotav. Parce que quand on a annoncé, quand le verset annonce « Elle est Toldot Noach », la suite aurait dû être simplement « Shem, Ham, Yafet ». Toldot, c'est les trois fils. Alors, il y a une autre lecture, dit Rashi, qui est que ça vient nous dire que ce qu'on a dit là sur Noah, qu'il était Tzadik, Tamim, Hayah Bedorotav, etc., c'est ça les toldot. C'est ça les engendrements de Noah. Parce qu'il y a un problème, parce qu'on veut nous enseigner par là que les toldot. Essentiellement, les engendrements, si on peut, de quelqu'un, ce sont ses ma'asim tovim, ce sont ses actions. Et les enfants, c'est un moyen de continuer de bonnes actions éventuellement. Mais les enfants peuvent continuer. Et c'est une façon pour quelqu'un de continuer de faire des bonnes choses, même après sa mort, par le biais de la suite, par le biais de ses enfants. Ensuite, Rashi s'arrête sur le pluriel de Rotav. Il dit, Ramen, Yesh Meraboteinu, Dorshim Oto, le Shevach. Certains disent que de dire qu'il était un sadique dans ces générations, on peut le dire positivement et dire que s'il avait vécu dans un milieu plus porteur, il aurait été encore plus sadique. Là, lui, il a été capable d'être sadique malgré l'environnement absolument détestable dans lequel il a vécu. Mais il y a aussi une autre lecture qui dirait le contraire, qui va dire que c'est négatif, en fait, ce qu'il dit là, c'est dire qu'il est relativement à cette génération de pourris, il apparaît comme un sadique. Mais s'il avait vécu à la génération d'Abraham, par rapport à Abraham, il n'aurait pas été considéré comme sadique.
Et on ne tranche pas dans ces...
Pardon?
On ne tranche pas, nous, qu'est-ce qu'on doit penser?
Non, vous ne devez rien penser. Vous avez un maître qui dit, certains disent qu'il faut l'expliquer comme ça, d'autres.
Oui,
on ne peut pas savoir.
Il y en a deux opposés.
D'accord, mais oui. Vous n'avez pas besoin de trancher, ce n'est pas dans votre vie. Ça ne change rien pour vous. On doit trancher seulement... Quand ça change, est-ce que je vais faire ça ou pas? Mais là, vous n'allez pas changer. On nous raconte qu'il y a deux possibilités. Ou bien on considère, ça nos maîtres ont dit qu'on pouvait le lire de deux manières. Pardon? C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est un sadique, en réalité, on devrait préciser est-ce qu'il est un sadique relativement à la génération dans laquelle il est, ou est-ce qu'il est un sadique absolu? Il résulte ou bien pas, justement, lui, il n'a pas résulté, justement. Noir, il s'est opposé, il a construit, Hachem va lui dire qu'il doit construire une arche. Il va construire 120 ans, en prenant 120 ans, il va construire son arche. Il va dire aux gens, il va y avoir un déluge, etc. Il faut faire. Et tout le monde s'est moqué de lui. Donc il est complètement à contre-courant. Toute sa vie, il a dû lutter contre les colibets de ses contemporains. Mais on va voir que. Alors, est-ce que ça a eu un impact ou bien est-ce que. L'interpréter autrement. Hachem lui donne l'ordre de construire l'arche avec tous les détails. Je saute ça pour l'instant. Et enfin, au Pasuk Yud Gimel, Vayomer Elohim le Noach, Ketz Kol Basar Baal Fanaï, Kimala Aretz Hamas Mitnehem, Vineni Mashritam et Aretz. Et donc, et il lui dit, moi, je vais tous les détruire, etc. Mais à la fin de tout cela, de toute cette description de l'arche, Hachem, au chapitre suivant, chapitre 7, à ce moment-là, c'est marqué « Vayomer Hachem, le Noir ». Alors, vous remarquez qu'on a changé de nom divin. Jusque-là, c'était toujours Elohim qui parlait à Noir. Maintenant, c'est le nom divin tétragramme. Il lui dit « Toi et toute ta maisonnée, entrez dans l'arche ». Et là, pour la première fois, il y a une justification de pourquoi est-ce que je t'ai choisi? Jusque-là, Noach, on lui a dit de construire une arche, il va y avoir, etc. Mais on ne lui a pas dit du tout, on ne lui a rien dit. Hachem ne lui a pas dit pourquoi lui. Et là, il lui dit, toi, tu dois entrer dans cette arche. Qui otra raïti tzadik lefanaï badorazé. Parce que toi, j'ai vu que tu es un tzadik devant moi dans cette génération. Le Emek Davar, il dit, je ne comprends pas pourquoi Hachem a attendu jusqu'à maintenant pour lui dire qu'il allait être sauvé et le pourquoi des choses. Parce qu'à la limite, quand il lui a dit de construire l'arche, il ne lui a pas dit du tout. Il a construit une arche, mais c'est tout. C'est comme si on ne lui avait rien dit du tout. Tu construis, mais ce sera peut-être pour je sais pas, pour quelqu'un d'autre, ou bien simplement, ça va rester une arche, c'est tout. Pourquoi il ne lui a pas tout de suite dit, toi, autre Haïti tzadik, le fanaï, badorazé? Alors, le Hamec d'Avar, il veut dire, comme c'est marqué, tu viendras toi, vechol betecha, toute ta maisonnée. Le Hamec d'Avar dit, ça vient inclure dans l'arche, il n'y avait pas seulement Noach et sa famille, mais c'est une tova qu'Hachem lui a faite. Tu peux prendre tes serviteurs, tes esclaves, et tes animaux domestiques, en fait, tous ceux qui te servent. Et c'est pour toi, les esclaves les animaux domestiques, c'est pour toi, c'est pas pour assurer la pérennité des espèces en question, parce qu'évidemment, les animaux qui sont qui sont prescrits, là où il en faut 7 ou 1, etc. Ça, c'est pour assurer la pérennité de l'espèce et aussi pour apporter pour approcher des corbanotes après. Mais là, il lui dit, tu peux prendre des gens qui vont te faciliter le travail. Vas avoir beaucoup de travail dans l'arche. Et c'est pour ça que ici, c'est Hachem qui parle, c'est pas Elohim. Parce que tout ce qui était de l'ordre de la pérennité de l'espèce, ça c'est de l'ordre de Elohim. Et maintenant, Hachem, c'est une tova qui est en train de faire. C'est un cadeau qu'il lui donne.
Madame Noir,
Pardon?
est-ce qu'il y a une Madame Noir?
Bien sûr. C'est marqué, Noar, sa femme. Ses
Ah,
fils et leurs femmes. Donc, tout à coup, là, maintenant, Hachem lui donne une explication, en quelque sorte. Mais l'explication, elle vient seulement sur pourquoi je te fais une tova, à la limite. Pourquoi tu as cette tova? Parce que tu es tzaddik, en fait. On a l'impression que la raison pour laquelle tu es sauvé, c'est pas tellement parce que tu as été tzaddik. Bon, de là, on a un peu l'impression qu'il y a probablement d'autres gens qui auraient pu être à la place de Noé. Mais maintenant, lui, il avait une qualité. C'est pas pour ça qu'il a été sauvé, mais c'est pour ça que Hachem lui donne une aide dans son arche. Bien. Alors l'idée, c'est pour détruire le monde, Hachem, il aurait pu faire exploser une bombe atomique. Et maintenant, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est un déluge d'eau. Et cette histoire de l'eau, ce drame-là fait de... C'est que quelque part, les eaux vont tout effacer. Elles disent que Hachem dit, j'envoie de l'eau, ça va tout diluer, littéralement. Il s'agit de détruire le monde par dilution. Il y avait déjà eu, la génération d'Enoch, l'océan avait débordé, il y avait déjà un tiers du monde qui avait été inondé et des gens qui étaient morts. C'est un avertissement. Et l'avertissement, il n'a servi à rien, donc il y a eu ce déluge complet.
L'énergie, matière première.
Oui, il n'y a plus rien. Il y a 30 cm, y compris 30 cm de la Terre, qui ont été dilués complètement.
Il n'y a plus de forme, mais il reste quelque chose de fondamental.
Il reste une Terre. Le reste de la Terre reste. Mais c'est clair que, en fait, si on regarde, si ça fonctionne. C'est difficile de savoir comment ça fonctionnait là-bas, mais si ça fonctionnait normalement, si vous enlevez 30 cm à la surface de la Terre, la masse de la Terre va changer. Et donc, du coup, elle ne va plus tourner à la même distance du Soleil, et plus du tout dans la même vitesse, etc. Tout va être changé. Parce qu'elle n'a plus la même masse. Donc, c'est vraiment un autre monde. Maintenant, comme c'était miraculeux, peut-être que HM a... Il a augmenté la densité de la. Et donc la masse est la même.
Mais bon. Là, il n'y a plus de différenciation. C'est ça que ça veut dire.
Bon, il n'y a plus rien. Et il va falloir tout replanter, enfin tout inventer, tout remettre à partir de ce qu'il y avait dans l'arche. Dans l'arche, il y a tout ce qu'il faut pour recommencer, pour remettre le monde en marche, en fait.
Dans l'arche,
non, non. Dans l'arche, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il va planter une vigne, Noah, en sortant. D'où il a pris la vigne. Pardon, pardon. Mémoire de l'eau, oui. Ben, Hachem peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de mémoire, c'est...
Si on parle de l'idée comme quelque chose de primordial, comme une énergie primordiale.
Ça, ce n'est pas présenté comme ça. C'est simplement, on a l'impression que, voilà, je vais détruire ça. Maintenant, il va rester ce que vous allez pouvoir fabriquer, fabriquer, construire, je ne sais pas, en planter, semer, etc., à partir de ce que je vous ai ordonné de prendre dans l'arche. Si vous voulez, c'est comme si non seulement il y a un nouveau premier homme qui est une première famille, mais c'est comme si il y a un nouveau monde qui, lui, est presque fabriqué par l'homme. C'est les hommes qui vont planter les choses. C'est plus comme dans Massé Bereshit, où Hachem donne des ordres et la chose pousse, etc. Mais les hommes ne peuvent pas fabriquer les choses à partir de rien. Comme Hachem. Et donc, Hachem leur a donné, voilà ce que vous allez garder comme graines, comme plants, etc. Et on va tout, vous allez tout replanter, en fait. À la génération de Enoch, qui est une des générations dans les 10 générations entre Adam et Noach, on a le passage dit à ce moment-là que les gens commençaient à invoquer le nom d'Hachem. Ça veut dire que Rashi explique. Ça veut dire que les gens commençaient à nommer, à diviniser en quelque sorte les humains et les phénomènes naturels, etc. Ils ont donné des noms divins. Ça veut dire qu'ici, que, et donc, ça c'est C'est pour ça qu'effectivement, Hachem a détruit quasiment un tiers du monde avec un débordement de l'océan. Par conséquent, ça fait apparaître le déluge comme un processus, en fait. Rashi ramène que les femmes de la mer, c'est le père de Noé, que ces femmes ont refusé d'avoir des relations avec lui en disant que, Rashi ramène, que demain il y aura un déluge et qui va tout effacer. Donc on voit ici que les gens étaient conscients qu'il y a un processus de destruction. C'est comme si comme aujourd'hui où certains gens disent, voilà, on est en train de détruire la Terre, c'est en train de se faire. Eux aussi, ils savaient, il y a un déluge qui est en vue. Ça veut dire, on est parti dans une direction qui est une mauvaise direction et tout ça, ça va être, l'eau va tout noyer, donc nous, on ne veut pas avoir des enfants on ne veut pas mettre au monde des enfants pour les faire mourir, quoi.
Ça, c'est la croyance unique, génération, parce qu'ils étaient dans le de Noah, ils n'étaient pas pressés de monter.
Non, mais justement, les gens, ils savent qu'il y a un processus, mais ils pensent que ce sera demain, bon, c'est après nous les luches, quoi.
C'était des sages, c'était plus sage pour avoir ces femmes, pour avoir déjà pensé, projeté ça.
Oui, ça veut dire probablement que c'était dans l'air. Ils ont compris. En plus, quand il y a eu un premier avertissement avec un tiers du monde qui est inondé, les gens, ils commencent à réfléchir. Alors maintenant, il faut savoir, puisque les gens se conduisaient mal, suffisamment mal, mais le déluge, il n'est toujours pas venu à ce moment-là. Alors, quelle est la faute spécifique qui a vraiment entraîné le déluge?
Il y a combien de temps entre ces deux événements?
C'est 10 générations, il y a entre Adam et Chava et Noé. Alors, le Passouk nous a dit, Hachem dit, voilà, j'ai vu que cette génération, ces gens-là, se conduisaient très mal. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit dans le Passouk Yud Aleph, du chapitre Vav, du 6-11, le Passouk dit, oui, la terre était remplie de violence. Et Rashi ramène, quand Hachem parle à Noach, il lui dit, c'est la fin de toute Mikol Bassar. Hachem lui annonce, effectivement, je vais tout détruire. Donc, bah, je vais te vivre en fait. Rachid dit que partout où tu trouves l'immoralité, l'idolâtrie, alors il y a une punition qui vient et qui distingue pas les choses. Ça s'appelle Andralamusia. Et ça tue aussi les innocents et les fautifs. Alors, dans les fautes qu'il faisait, il y avait les trois fautes majeures, par exemple. Il y avait l'idolâtrie, il y avait l'immoralité, il y avait le meurtre. Les gens s'entretuaient. Et ça n'a pas entraîné le déluge. Le déluge, il vient à cause du gazelle, à cause du vol. Le vol, gazelle, Hamas. Oh, c'est un peu paradoxal parce que, a priori, le meurtre, c'est plus important que le vol. Comment ça se fait que le vol soit le déclencheur? Il déclenche quelque chose que le meurtre n'a pas déclenché. Le vol, c'est une corruption complète de la société. Parce que Hazal disent que quand les gens voulaient voler quelqu'un, ils se mettaient en groupe. Il lui tombait dessus et chacun lui volait, comme on dit, parod micharé pruta. Chacun lui volait une toute petite partie, c'est-à-dire qu'il pouvait pas, c'était pas suffisamment important pour qu'on puisse aller au tribunal et accuser celui-là. Il m'a pris 3 sous. Tu vas pas aller au tribunal pour 3 sous. Mais quand tout le monde vient et chacun lui prend, le type, il est complètement, il est tout nu, quoi. Il a plus rien. Mais il peut se retourner contre personne. Et les juges sont corrompus et une corruption totale. Et ça a déclenché le déluge. Ce n'est pas dit plus précisément. J'aurais pensé que on peut-être dire que l'histoire, le vol, c'est que personne ne crie au meurtre ou à l'immoralité, mais on crie au voleur. Ça veut dire que le vol, ça déclenche un appel, ça veut dire une publication de la chose, et peut-être c'est ça l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est ça qui déclenche le déluge? Parce qu'il y a une espèce d'appel au secours, ça veut dire une sorte d'appel de la personne volée qui demande de l'aide et personne ne lui répond. Alors c'est ça le déclencheur. Quelque part, Hazal disent que c'est toujours le vol qui déclenche les choses. Dire ça déclenche parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire moi, je n'étais pas au courant, etc. Oui, tu es au courant. Le volé, il a crié au voleur et t'as pas bougé. Oui, bien, la délation, c'est de la chanara, c'est pas du vent.
Mais parce que vous dites que c'est
Oui,
le gazelle qui déclenche.
c'est
Or,
gazelle, la délation, c'est pas du gazelle.
non, mais quand il y a une délation, mon cher compris, il me
Oui,
semble
non, ça,
que
c'est autre chose. Vous
ah.
parlez de la délation, c'est la chanara. On parle ici du vol, pas de la délation.
Il n'y a pas encore intermédiaire.
On pourrait faire un lien, mais il n'y en a pas directement, non? Pardon? Non, les gens ne crient pas. Ils crient pas de la même manière. Le cri standard, c'est au voleur. Enfin bon, ce n'est pas l'explication, c'est juste pour illustrer. Razal disent que c'est le vol qui déclenche, mais ils ne disent pas. Pourquoi c'est le vol particulier, mais parce que c'est ça qui détruit la société complètement. Ou bien les gens, il ne peut pas crier longtemps. Le voleur, il peut continuer, le voleur, il peut continuer de crier même quand on l'a volé. Celui qui a été tué, il arrête de crier.
Juste le fait de crier, ça empêche d'aller plus loin. Ça doit, comme si ça devait réveiller pour amener une correction.
Mais ça ne le fait pas, justement. C'est ça qui s'est passé. Ça ne l'a pas fait. Ça, la corruption de la société. Alors, le problème est que, comme dit Rashi, ça a été déclenché par le vol, mais le fait que des innocents soient aussi tués comme ceux qui ne l'étaient pas, Rashi dit, ça vient de ces deux fautes qui sont donc immoralité et idolâtrie. C'est-à-dire, en fait, que quand on dit ça, ça veut dire que c'est ouvertement immoralité et ouvertement idolâtrie. C'est un peu paradoxal parce que ces deux fautes-là, elles apparaissent souvent comme des fautes, on pourrait dire, généreuses, en quelque sorte, d'ouverture, une trop grande ouverture. Ça, c'est peut-être aussi l'expression d'une recherche, y compris même transcendante, dans l'idolâtrie, il y a une recherche. Ce n'est pas par hasard que vous vous souvenez probablement que dans la paracha de Arayot, une relation incestueuse est appelée Chesed. Chesed. Chesed, c'est l'ouverture, mais une trop grande ouverture, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui ne supporte pas les limitations, ne supporte pas la loi. Souvent c'est comme ça, mais le Midrash, lui, il ne lit pas comme ça. Le Midrash, il dit que la sexualité, donc l'immoralité de la génération du déluge, c'était une sexualité complètement égoïste. C'est-à-dire. Comme dit dans le passouk, c'est marqué, ils ont les fameux anges qui sont tombés là, ils ont vu les filles de l'homme qui étaient belles et ils les ont prises. Il prenait ces créatures, quelles qu'elles soient, ces espèces de princes qui étaient là, qui faisaient le travail d'Elohim, si on peut parler comme ça. C'était des princes, quoi. Et ils voyaient quelque chose de beau. Alors, c'est marqué Tovot, les créatures qui étaient Tovot. Mais c'est écrit un tovot sans le vav. C'est-à-dire évidemment que quand on préparait une kala, Lui, il venait, eux, ils venaient, puis ils prenaient la kala. Ils rapetaient la kala. Ce qu'on a vu par la suite, le fameux droit de cuissage, etc., des gouverneurs. Mais ils prenaient aussi ce qu'ils trouvaient beau, ça pouvait être des femmes mariées, ça pouvait être des hommes qui leur plaisaient, même des animaux, l'animal. Sexualité complète sans aucune limite. C'est l'idolâtrie, parce que dans l'idolâtrie, les gens s'imaginent que la Torah elle est contre l'idolâtrie parce que les gens ils se prosternent devant des statues. L'idolâtrie, c'est une façon de regarder le monde. C'est une façon d'inventer des lois qu'on fait pour soi-même, quoi, quelque part. On invente des lois qui me permettent de satisfaire tout son désir. Et donc, c'est vrai que ça va toucher énormément de choses. Ça va, allez, au titre de l'idolâtrie, on peut aussi prendre l'argent des gens, on peut prendre la femme ou le mari de l'un, de l'autre, dans tous les domaines. Effectivement. C'est une façon de lutter, quand la Torah lutte contre l'idolâtrie, la morale dit que celui qui nie l'idolâtrie, il a déjà, en fait, c'est comme s'il avait adhéré vraiment à la Torah. Ah, dans la Torah, tu as 613 mitzvot, oui. Toutes ces mitzvot-là, elles sont toutes de l'ordre de le contraire de l'idolâtrie, en fait. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. Les gens, voilà, ils se laissent aller complètement. C'est même pas se laisser aller, ils vont fabriquer la loi qui va leur permettre de justifier leur démarche. Et en fait, c'est quelque chose qui détruit complètement la société, qui détruit aussi les individus. Si vous voulez, le fait que vous ne puissiez pas, par exemple, on ne peut pas porter plainte, parce que le tribunal ne s'occupe pas de ces choses-là. Donc, vous n'avez aucun moyen de vous reconstruire, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance de cette possibilité de se reconstruire. La loi, elle est faite qu'on ne puisse pas se reconstruire. Donc, c'est la pire des choses, en fait. En fait, c'est une négation complète de l'autre, en fait. Et donc, en fait, même la sexualité, c'est une sexualité de cruauté, pas du tout une relation érotique, ce genre-là. Évidemment, c'est le contraire de la relation d'amour. C'est pas du tout une... Il n'y a aucune attention à l'autre. Et d'une certaine manière, on peut dire que du coup, c'est un gazelle de l'autre. On vole l'autre, on lui vole sa vie, en fait.
déjà dès le premier, dès le premier qui fait de la fille qui a conçu, qui souffrait de cette loi.
Enfin, il en souffrait certainement dans la mesure où il a... Quand on a tué les premiers-nés, je vous ai dit, les premiers-nés sont ceux qui assurent le passage d'une génération à l'autre. Donc, c'est ceux qui assurent la continuité. Donc, quand on a tué les premiers-nés, il n'y a plus de continuité. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est une nouvelle Égypte. Quoi. Quelque part, on pourrait presque dire qu'il y a un changement de dynastie à chaque fois. Et donc, quand vous dites qu'il a pleuré, bon, c'est la fin de la dynastie, en fait. Il n'y a plus de continuité. Même s'il a d'autres enfants, disons, qui n'ont pas les premiers-nés, mais eux, ils vont faire leur chemin tout seuls.
C'est pas sentiment, c'est pas effectivement.
J'en sais rien, je ne sais pas.
Parce que l'image, le schéma, le prototype de l'idolâtre, c'est pas vraiment.
Non, non, c'est pas vraiment. Il y avait l'idolâtrie était bien avant Paro.
Oui, mais lui, c'est un modèle. Il s'est pris pour Dieu sur le
livre. Je ne sais pas si c'est lui qui se prend pour Dieu. C'est la civilisation égyptienne qui pense qu'ils ne peuvent être dirigés que par Dieu, quelque part. L'empereur, au Japon, l'empereur, c'est Dieu, quelque part.
Le pape aussi.
Je ne sais pas, peut-être. Aussi, quelque chose comme ça. Et tous aussi, c'est Dieu ou c'est le Père, Saline, etc.
Les grands tzadikim qui pourraient relever leur d'abord pourrir.
C'est pas les tzadikim.
C'était
pas n'importe qui, mais c'était loin des tzadikim. C'était des idolâtres.
Mais des idolâtres qui servaient Dieu. Ils étaient dans le temple.
Non, pas du tout. Ils couraient au temple, pas au temple. Ils couraient à la Vodazara. Pas au Beth Amikdash. Mais ils relevaient leur... Eux, ils ne relevaient pas, justement. Eux, ils se réjouissaient d'être entravés pour arriver un peu plus tard au temple à l'idolâtrie. Il lui a dit, si toi, tu avais vécu à notre époque, toi, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir encore plus vite à l'idolâtrie. Tellement c'était attirant, tellement c'est. On voit bien aujourd'hui les phénomènes de gens qui sont complètement phagocytés par les réseaux sociaux, etc., et qui ne vivent plus, quoi. Ils attendent de savoir qu'est-ce que l'autre va penser de ma prestation. Donc maintenant. Noir, lui, il est sauvé et il va travailler dans cette arche. Pendant tout ce temps-là, il va devoir nourrir, etc. Et comme les gens, comme ces animaux, comme dit le Midrash, chacun a son heure où il faut lui donner à manger, etc. Donc, en fait, ils n'ont quasiment pas dormi. Et. Alors, on a vu, le mec d'Avar, il dit, il avait un peu d'aide, il avait des esclaves, etc., qui l'ont aidé, parce que le job était impossible, sinon. Et puis, bon, à la fin, hein, alors d'abord, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que Noach, il a bien construit l'arche comme Hachem lui a ordonné. Et puis, à un moment donné, Hachem a dit à Noach, ce verset que vous avez commencé à lire au début du chapitre 7, Vayomer Hachem le Noach, Bo, Atav, Cholmetecha, et la Teva, qui otra raïti tzadik, nefanaï, padorazé, etc. Tu prendras et tant d'animaux de toutes les sortes, etc. Donc Hachem, a donné l'ordre à Noach d'entrer dans l'arche. Mais en fait, Noach n'est pas entré dans l'arche. Il n'est pas tout de suite entré. Le pasouk va dire qu'en réalité, il va attendre qu'il commence à pleuvoir. Il est entré dans l'arche, mipnei me'amabou. Dans le pasouk Zayin, chapitre Zayin d'ailleurs, 7-7, Vayavo Noach ubanav v'ishto unche banav ito et la teva mipnei me'amabou. Il est entré parce qu'il pleuvait. Rachidi, il n'est pas à ma boule, Rachidi, Afnoach miktane amana aya, ma'amin veno ma'amin, j'y avoue à ma boule. Noach, il a construit pendant 120 ans l'arche. Et maintenant, on voit qu'en réalité, il y croyait, mais il n'y croyait pas complètement qu'il y aurait vraiment un Maboul. Donc, quand Hachem lui a dit « Entre dans l'arche, il va y avoir le Maboul », il n'est pas entré. Il a attendu que le Maboul commence, qu'il pleuve et qu'il ait compris que ce n'est pas une averse, mais que c'est vraiment « mais un Maboul » pour entrer dans l'arche. Et donc Rashi dit, il n'était pas un grand ma'amin, ktane amana. Il était petit en emouna, en confiance d'Hachem. Ma'amin ve'eno ma'amin. Pardon? Oui. Parce que c'était impensable. D'un côté, on dit ils auraient dû, ils le savaient, les femmes disaient il va y avoir, etc. Mais c'est quand il n'y a pas une date bien précise, alors oui, c'est sûr, il va y avoir des problèmes. Mais du coup, il n'est entré que obligé d'entrer.
C'est quelque chose qui m'intrigue, comment il a fait pour réunir les animaux.
Ils sont venus tout seuls.
Animaux,
ils sont venus tout seuls.
Ils sont rentrés eux avant ou...
Non, il les a fait entrer, mais ils sont venus tout seuls vers lui. Ceux qui devaient venir sont venus tout seuls. Enfin, ils ne sont pas venus tout seuls, Hachem les a envoyés, mais...
C'est le tzaddik de la génération, on peut dire après qu'il y a un problème quand on le traite de tzaddik de sa génération. Il me semble que là, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'il est un peu limité.
Mais c'est parce qu'il y a une certaine ambiguïté dans sa tzidkout qu'on peut lire, c'est formulé de telle sorte qu'on puisse le lire de deux manières. Et c'est confirmé ici, mais c'est pas... Même si on tient qu'il est tzaddik absolu, c'est-à-dire que il est aussi tzaddik que possible, c'est-à-dire que s'il avait été dans une génération plus porteuse, il aurait été plus tzaddik, mais il n'est quand même pas entré dans l'arche avant qu'il pleuve. Parce que ça, tzaddik, ça veut dire qu'il faisait ce qu'Hachem lui demandait. Je suis en train d'entrer, je vais entrer, on est en chemin, quoi.
Alors,
on fait penser, hein,
je vais m'arrêter de fumer. Les fumeurs. Demain, je m'arrête.
Voilà. Pardon?
Il était déjà fait des problèmes. Il savait pas, mais il savait pas, c'était gentil.
Bon, c'est sûr que.
Ah non, il devait se séjourner. Et je Et je crois qu'il y avait des fenêtres.
Il y avait quoi?
Des fenêtres.
Il y avait une petite fenêtre, mais certains disent que ce n'est pas une fenêtre. C'est seulement une pierre précieuse qui assurait la... Ah, c'est sûr qu'il y a, vous entrez dans, il y a des situations dans lesquelles on entre et on ne sait pas si on sortira. Je me souviens que quand il y avait les scouts qui tombaient en Eretz Israël, on ne savait pas s'ils étaient chargés ou pas. Ma fille m'a raconté, je suis rentré avec mon bébé dans... Ils avaient fait des chederatoum, des pièces plus mieux protégées. Je suis entré, je ne savais pas si jamais ce qui allait arriver. Quoi. Nous aussi, on était là. Et on savait que les enfants entraient. Je crois qu'il était avec son masque à gaz. Son masque, donc après, on a appris qu'il ne servait à rien parce qu'ils étaient... C'était des vieux masques qu'on aura distribués, qui ne servaient à rien. Bon, c'est sûr que... On comprend que ce soit difficile d'entrer là. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sadique, je veux dire, même si on pense qu'il était sadique.
Non, je veux dire, la relativité du mot qui est suggéré au départ, en fait, est interprétable.
Oui, mais enfin, le Ramban, il n'enlève rien à au côté de sadique d'Abraham Avinu, il lui dit que Abraham Avinu s'est trompé et qu'il n'aurait jamais dû descendre en Égypte à cause de la famine. Mm-hmm. Et il dit que c'est de sa faute si il a pavé le chemin pour descendre en Égypte.
Abraham Avinu est devenu, on a tout le cheminement d'Abraham. Et l'Abraham de la peur est quand même. Évolué par rapport au début, il a fait un chemin, il a tracé lui.
Ben lui, il est à 10 générations de là.
Oui.
Il y a 10 générations entre Noah et Abraham.
Noah, on ne raconte pas, enfin, moi, sûrement dans les textes, on le dit, moi, je n'ai jamais su comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait. Noah, je le connais par la tête.
Ben justement, le problème de la critique qu'on fait à Noah, c'est qu'il n'a jamais demandé grâce pour la génération. Il n'a pas prié pour sa génération. En opposition à Abraham qui va prier même pour Sodom. Mais c'est très ambigu parce qu'il y a un midrash qui dit qu'avant la création du monde, Hachem a passé en revue avec les anges ce qu'il allait créer. Et alors, quand ils ont vu Adam, ils ont dit « Ah, c'est ça la raison pour laquelle tu as créé le monde ?» Alors Hachem a dit non, pas du tout, c'est un voleur. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de manger de cet arbre, du fruit de cet arbre-là, il a mangé quand même, c'est un voleur. Alors, quoi, c'est Noach? Non, Noach, il n'a pas prié pour sa génération. Et alors après, le Midrash dit, alors quoi, Abraham? Ben non, Abraham, il a prié pour mes ennemis. Yitzhak, même chose. Jusqu'à Yaakov, parce que Yaakov, lui, il est devenu Israël, il est porteur du nom d'Hachem, parce que, bon, Yaakov est parfait. Donc, ça veut dire que même c'est Abraham, le fait qu'il ait prié pour sauver Sodom, il y a un midrash qui dit, c'est négatif, il prie pour les ennemis d'Hachem. Alors qu'on n'arrête pas de répéter, comme c'est extraordinaire, qu'Abraham était capable de prier pour sauver les gens de Sodom, qui sont des crapules de chez crapules, quoi. Donc, c'est avec toute la législation sodomite, c'est affreux, quoi. Mais il prie pour eux. Et le Midrash, il prie pour mes ennemis.
Yaakov, c'est pour Yaakov qui va dire.
Yaakov, parce que Yaakov, s'il devient Israël, et nous, on porte le nom de Yaakov.
Ça veut dire que Yaakov, c'est la perfection
pour Hachem. Ouais, ouais. Pardon? Dans le Midrash, il dit Chem Yitzhak, il dit pas qu'est-ce qu'il y a pour Yitzhak. Et souvent, les Midrashim, sur Yitzhak, ils disent pas grand-chose. Souvent, même dans la fila, on parle Chesel l'Abraham et Emet le Yaakov. Hein, qu'est-ce qu'il y a avec Yitzhak? Il y a juste à Rosh Hashanah, c'est Yitzhak. Ta Avinu, toi tu es notre père.
La pierre angulaire de toute notre
C'est toujours le problème de... Abraham, c'est le premier, donc il a inventé. Et Yitzhak, il fallait suivre et inventer quand même. Donc, c'est une démarche de compléter, corriger Abraham. Mais avec... bon, c'est une forme de handicap, il y a déjà... Il devait se faire un prénom, le nom de famille était déjà...
Quand on est cette lignée, tous doivent... Vous nous avez dit que le Rav, le Av, celui qui crée son chemin, donc c'est pas un nom, c'est un chemin qu'il doit créer. Mais à partir du premier, la référence, c'est premier, créer un chemin, on doit...
Mais non, justement, le problème, c'est que il construit à partir d'Abraham, mais différemment, quoi, il corrige. Il y a trop de chesed chez Abraham, lui, il va du côté de la Goura, mais lui, il va aussi trop du côté de la Goura. Donc, on arrive à Yaakov, qui est au milieu, là, qui n'est pas vraiment complètement au milieu, un peu plus du côté du chesed. C'est compliqué. Voilà, on va s'arrêter là.